Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC.
Grand plateau.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, que ce soit en Italie ou dans le sud de la France, les frelons de la Visma n'ont même pas attendu que les premiers bourgeons éclosent pour piquer tous leurs adversaires dans les courses de la semaine écoulée. Si la victoire de Vingegaard dans Tirreno-Adriatico était attendue, voire annoncée, celle de Matteo Jorgensen sur Paris-Nice est plus surprenante. Et aujourd'hui dans le Grand Plateau, eh bien, on va tenter de faire plus ample connaissance avec ce jeune Américain, dernier recrue en date de la formation néerlandaise. De quelle race fait donc partie ce Jorgensen, celle des futurs grands cracks ou des lieutenants de haut niveau? On se posera la question. Jorgensen, qui sait payer le luxe, s'il vous plaît, de battre Remco, seulement deuxième du général, le Belge, qui, vous l'entendrez, s'est tout de même montré satisfait de sa course. Alors, faut-il le croire? Et quelles ambitions peut-il se fixer pour cette saison 2024? Là aussi, débat d'un grand plateau. Si Remco n'a pas gagné, Vingegaard, lui, ne s'est pas privé de lancer de nouveaux messages à tous ses rivaux du mois de juillet. En dominant de la tête et des pédales la course des deux mers, le Danois se dit encore plus fort que l'an dernier, voilà qui promet, même si à la différence des années précédentes, il a soigneusement évité d'affronter jusque-là Pogacar. Il en sera de même samedi prochain au départ de Milan-San Remo. On le retrouvera Pogacar, mais pas Vingegaard. L'adversaire numéro 1 du Slovène le week-end prochain, ce sera Van Der Poel pour sa première course sur route de la saison. Enfin, nous dirons un mot de David Gaudu qui n'y arrive toujours pas cette saison, qui a vécu une fin de semaine délicate sur Paris-Nice après une chute un peu stupide qui l'a contrainte quelques jours plus tard à l'abandon. Faut-il déjà s'inquiéter pour le Breton qui, rappelons-le, l'an dernier, avait terminé deuxième de Paris-Nice en battant notamment au passage Vingegaard. Pour évoquer tous ces passionnants sujets, une équipe de choc aujourd'hui emmenée par un druide rafistolé, requinqué. Salut Cyril!
Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, oui, il a retrouvé le moral, le druide.
Ah bah alors, s'il a le moral et la santé, on va morfler.
Lui aussi. Ah, les deux vont de pair. Hein.
Exactement. Lui aussi, il est requinqué par l'air vivifiant de la Côte d'Azur. C'est quand même pas de bol, Arnaud. Chaque fois que tu descends sur la côte, il pleut ou il neige.
Ben voilà, oui, j'ai eu la pluie pour Paris-Nice. Alors, c'est pas à chaque fois. C'est arrivé au Tour de France 2020, mais bon, c'est là qu'on a vraiment vu le visage de Nice. Hein. Nice, la pluvieuse, Nice, l'orageuse. Non, la réalité, c'est que d'habitude, quand je descends à Nice en mars, la course au soleil porte très bien son nom parce que j'y trouve le soleil. Bon, là, pour une fois, pas de chance, c'était épisode méditerranéen. Mais je crois que le soleil, ils l'ont retrouvé dès lundi.
Ils l'ont retrouvé, on espère le retrouver évidemment aussi
cet
fin
été.
Juillet.
Hein, pour intérêt, parce que alors là, sinon, ça va barder pour toi.
Et puis Johan Bredov est également de la partie. Lui, l'air frais des studios, c'est voilà ce qu'il respire le week-end.
C'est ça,
Johan, à mes côtés, comme ça on est resté tous les deux.
Bien sûr, salut à tous, on est resté au sec, nous, comme ça, on regardait Arnaud de loin. On l'entendait comme ça. Allez, prends-toi la pluie, Arnaud, pour nous.
Voilà, c'est vrai qu'on était Arnaud qui aurait dû arriver dans ma station de ski préférée, là où j'ai appris à skier. Mais bon, il y avait trop de neige, c'est quand même la première fois depuis 10 ou 20 ans que j'entends qu'il y a trop de neige à Oron, quand même. C'est quand même dingue. On attendait Evenepoel ou Roglic annoncer que tous les deux comme les grands favoris de Paris-Nice. Mais les cadors sont tombés sur un os américain nommé Jorgensen.
Brandon McNulty qui est justement en train de perdre sa tunique petit à petit de leader du classement général. Il n'avait que 4 secondes d'avance sur son compatriote Jorgensen ce matin au général. Il a désormais 1 minute 13 de retard. Forcément, on le dit dans les oreillettes à Matteo Jorgensen qui continue vraiment à imprimer un gros tempo en tête de ce groupe de tête qui veut prendre le maximum de temps, qui prend aussi pas mal de risques. On l'a vu notamment sur des descentes très humides, prendre des trajectoires très tendues. Il a pas peur, Matteo Jorgensen, mais il ne faut pas avoir peur quand on veut aller remporter la plus belle victoire de sa carrière. La promenade des Anglais, théâtre de cette arrivée qui est une promenade américaine aujourd'hui. Brandon McNulty, un Américain, était en jaune ce matin au départ de l'étape à Nice. Matteo Jorgensen, notre Américain, va lui shipper la précieuse tunique cet après-midi. Il l'avait dit, Jorgensen, oui, je peux gagner Paris-Nice. Et bien voilà qui est fait dans quelques instants. 19 ans après Bobby Julich, 18 ans après Floyd Landis, il va devenir le troisième coureur américain à inscrire son nom au palmarès de Paris-Nice. Et la victoire d'étape sans surprise pour le Belge Remco Evenepoel, ici à Nice.
Voilà, Matteo Jorgensen, Américain, 24 ans, nouveau venu chez Visma. Alors, on connaissait déjà le bonhomme et son talent. On le savait doté d'un sacré coup de pédale. Ok, mais là, quand même, Cyril, réussir à battre Evenepoel, Roglic et tous les autres et remporter Paris-Nice en costaud, ça valait une belle cote. Hein. Johan, c'est le roi des paris. Je ne sais pas combien il était, Jorgensen, mais...
Il faisait partie des favoris.
C'était un outsider. Ouais, on va dire, les favoris, c'était Evenepoel et Roglic. Et puis derrière, on avait mis Almeida, McNulty, Jorgensen notamment... si j'en oublie pas, avec Gaudu aussi en outsider, pardon.
Ouais. Cyril.
Oui, eh bien, un outsider, il faut toujours des outsiders et quelquefois, eh bien, ils battent les grands favoris, mais ça fait partie de la règle du jeu. Les grands favoris sont un petit peu écrasés sur ce Paris-Nice et on subit la loi de Jorgensen, mais également de McNulty qui était encore jusqu'à la veille de l'arrivée, qui était encore maillot jaune et les grands favoris étaient derrière. Voilà. Donc Paris-Nice intéressant sur ce plan-là d'ailleurs.
Mais alors c'est vrai qu'on avait perdu l'habitude de voir les outsiders s'imposer dans les courses cyclistes depuis quelques temps.
Alors,
parce qu'il y a une telle race, il y a une telle race de champions actuels. Quand t'as un Pogacar au départ des Stade des Banquiers, tu sais que c'est lui qui va gagner. Quand t'as Vingegaard au départ de Tirreno, tu sais que c'est lui qui va gagner. Voilà. Et là, au départ de Paris-Nice, on disait oh, Roglic et Evenepoel, ça peut pas leur échapper. Et ben là, c'est quand même un signe qu'ils sont peut-être un ton en dessous des deux autres grands favoris du prochain Tour de France. Quand même, Arnaud.
On va en parler, j'imagine, dans quelques instants de Tirreno Adriatico. Moi, je trouve quand même que la concurrence, elle était plus élevée si on s'intéresse vraiment au profil des coureurs sur Paris-Nice que sur Tirreno Adriatico.
Ayuso, Hindley, c'est moins.
Moi, je trouve que le plateau était quand même plus élevé sur Paris-Nice. Après, effectivement, oui, manifestement, Remco Evenepoel est quand même moins fort que Nelly Jonas Vingegaard en ce début de saison. Mais je ne suis pas particulièrement choqué à l'idée de voir Remco Evenepoel terminer deuxième. Surtout qu'on a senti qu'il était quand même relativement fort sur cette course. Il a juste loupé un petit coup tactique dans une étape sur le papier, ne présentait pas forcément toutes les caractéristiques d'une étape capitale. Et pourtant, elle l'a été. C'était l'étape de la Col-sur-Loup vendredi.
Ouais, c'est ça. En fait, Remco Evenepoel, c'était peut-être le plus fort du peloton sur ce Paris-Nice. Jorgensen le plus malin, et il en a profité, il est venu, et tu l'as dit Arnaud, il est parti, il a pris ses 52 secondes, il a été meilleur aussi au chrono, meilleure équipe, après c'était un chrono un petit peu bizarre avec des conditions météorologiques qui changeantes et donc ça n'a pas avantagé toutes les formations, mais c'est vrai que ce Jorgensen, on en parlait la semaine dernière avec Arnaud et Jérôme Coppel, c'est un peu le troisième nom qu'on a vite ressorti. On parlait de ce duel évidemment annoncé entre Roglic et Evenepoel. Jorgensen, alors on a un petit peu triché parce que la première étape avait eu lieu. On l'a vu prendre les bonifs. Tu l'as vu toi Arnaud encore dans ça plus près. Il a pris les bonifs, signe de son ambition. Et puis dès que t'es à la Visma, t'es propulsé leader. Évidemment, c'est pour au minimum faire un podium et au maximum gagner. Et c'est ce qu'il a fait brillamment.
Alors avec toi Arnaud, on va découvrir un peu mieux ce Matteo Jorgensen qui aurait pu passer pro il y a quelques années dans une équipe française. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et ça doit sans doute laisser pas mal de regrets à Vincent Lavenu qu'il avait eu comme stagiaire durant quelques mois.
Oui, 2019, Matteo Jorgensen, âgé de 20 ans, n'a pas froid aux yeux et envoie un mail avec ses données de puissance, notamment au CCF, le Chambéry Cyclisme Formation, antichambre à l'époque de l'équipe Décathlon AG2R la mondiale, remarquable et remarqué. Il va y passer un petit peu moins d'un an avant de se voir proposer un contrat de stagiaire au sein de la formation savoyarde, mais le jeune homme est pressé, comment lui en vouloir, et quand Movistar lui propose en même temps de passer pro tout de suite, eh bien il délaisse la France, évidemment, pour l'équipe espagnole. Un contrat de 3 ans s'offre alors à lui, l'apprentissage du haut niveau, d'abord pour le Californien né à Walnut Creek, près de San Francisco, avant d'exploser en 2023, vainqueur du Tour de Man, 4e du Grand Prix E3, 9e du Tour des Flandres, puis, on s'en souvient, à deux doigts de remporter l'étape du Puy de Dôme sur le Tour de France, avant de craquer dans les tout derniers hectomètres, c'était l'été dernier. En fin de contrat avec Movistar, plusieurs équipes se ruent sur la pépite. Visma, Lise Bike rafle la mise, mais Decathlon AG2R est pourtant toute proche de ramener Jorgensen dans ses filets. Plusieurs rendez-vous ont lieu entre le Californien et l'état-major de l'équipe française. Cette dernière lui propose d'ailleurs un rôle de leader exclusif. Le courant passe très très bien entre notamment Julien Jordi, le directeur sportif, et Matteo Jorgensen. Le coureur hésite, mais choisit finalement de devenir l'un des hommes à tout faire de la meilleure équipe du monde. Bien lui en a pris, manifestement, puisqu'il remporte au bout de 3 mois seulement en jaune et noir, la plus belle victoire de sa carrière sur Paris-Nice.
Et oui, parce que l'avantage chez les Néerlandais, Cyril, c'est que même si tu es un homme à tout faire, eh bien de temps en temps, on te désigne leader et tes leaders te font quelques cadeaux. On se souvient de Laporte l'année dernière, Jorgensen, Kuss aussi, vainqueur de la Vuelta, alors qu'il n'était pas au départ fait pour ça. C'est ça, ils savent aussi faire de beaux cadeaux à leur coureur, non pas leader.
Oui, eh bien, je pense que Vincent Lavenu a quand même raté le coche en 2019. Il est chez lui, il le fait courir, il connaît ses data, il connaît son palmarès, ne serait-ce que sur le Tour de l'avenir. Et le seul qu'il ne prend pas, c'est l'Américain. Or, dans cette équipe, il y avait quand même des coureurs comme Champoussin, Lapeyra, Prodhomme, etc. Et il va garder tous ces coureurs, et c'est tout à fait logique. Mais il ne s'accroche pas.
Le seul qui ne garde pas, c'est Jorgensen.
Ouais, c'est pas qu'il ne veut pas le garder. Attention, hein, il lui propose un contrat de stagiaire. Lui, il veut de l'argent, Jorgensen. Il a
il veut devenir
raison.
Bah,
donc,
oui,
il
non, mais, d'ailleurs, il le dit. Il dit en plus, bon, il est. Oui, mais attends, quand tu veux garder quelqu'un, il faut le payer aussi.
Oui.
Bon, il est stagiaire, mais on ne lui propose rien. Il court pour l'équipe, donc dans l'équipe pro en tant que stagiaire. Mais il le dit, en plus, je n'étais pas payé. Bon, un Américain, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut le payer. Donc, quand on lui propose quelque chose...
Quand tu es allé chercher Greg, tu lui as fait un chèque, hein, tu lui as donné des dollars un peu.
Ben oui, heureusement, il n'y avait pas de table, comme ça, ça ne pouvait pas être un sous de table. Non, non, mais un Américain, il ne comprend pas de travailler pour rien. Déjà qu'il fait l'effort de venir, à Chambéry, il y a un moment, faut peut-être aussi faire les choses. Et dans la négociation qu'il y a eu l'an dernier, est-ce que dans les entretiens qu'il y a pu avoir, est-ce qu'on a réévoqué ça? Est-ce qu'il avait une vraie confiance ou pas confiance? Et puis attendez, l'équipage G2R, c'est quand même pas Visma. Donc, quand tu regardes la puissance des deux équipes, il y a un moment, tu te dis, attends, il vaut mieux que je sois dans la bordure des costauds que dans la bordure des gens qui sont en règle générale plutôt, et c'est pas péjoratif, mais plutôt en chasse-patate. Quoi.
Alors, il y a une réalité dont tu as bien conscience à G2R, enfin Décathlon à G2R, le mondial, pardon, maintenant, il faut tout dire, c'est pénible ces noms d'équipe. Donc la réalité, on en a bien conscience dans l'équipe de Vincent Lavenu aussi, c'est qu'il y a un travail entre guillemets de sensibilisation à faire auprès des coureurs étrangers, auprès des grands coureurs étrangers, pour leur dire nous sommes une grande équipe, pouvons vous proposer des choses en termes de moyens mis en œuvre pour performer, pour progresser, pour vous entraîner, qui seront similaires à ceux de Visma Lease Bike, à ceux de UAE Team Emirates, à ceux de Bahrain Victorious, etc. Et ils savent qu'ils ont un déficit là-dessus de notoriété. Et c'est probablement aussi ce qui a un petit peu péché auprès de Matteo Jorgensen, à qui, encore une fois, je le répète, à G2R, proposer un contrat de leader exclusif quand ils ont voulu le recruter à la fin de l'hiver dernier.
Matteo...
Oui, O'Connor, il disait quoi?
Comment ça, O'Connor, il disait quoi?
Non, mais quand tu dis tu vas être leader unique, et O'Connor, il est bien chez G2R, chez Decathlon.
Félix Gall.
Oui.
C'est lui qui est leader aujourd'hui.
Oui.
Et il disait quoi, lui, dans cette affaire?
Après, je peux imaginer quand même qu'ayant trois grands tours et sur l'année, tu peux quand même...
Il aurait pu le mettre, voilà. Il aurait
surtout
pu
que Ben O'Connor, pardon, mais sur le dernier Tour de France, sur le précédent...
Non, mais t'as Félix Gall aussi, quand même.
Oui, oui, non, bien sûr, mais bon, c'est pareil, Félix Gall,
Est-ce que t'es crédible quand tu dis à un coureur comme Jorgensen, tu vas être leader unique, et l'autre il regarde, il y a Van Gaal, il y a O'Connor, attends, il y a un moment, est-ce que ce discours est crédible ou pas?
Oui, enfin, excuse-moi, tu pars dans une équipe où t'as même Sepp Kuss, Wout van Aert, Christophe Laporte, parce qu'il faut pas, je l'ai pas dit dans le portrait que j'ai dressé de Matteo Jorgensen, mais c'est aussi un flahut hors pair, qui est capable de très très bien rouler sur les pavés. Bref, voilà.
Ok, alors, Matteo Jorgensen, en tout cas, était presque étonné de son sort et de cette victoire dans Paris-Nice. Écoutez-le, il est donc au micro d'Arnaud.
En français.
Il parle un français.
Et il habite à Nice.
Parfait.
Hein.
Ah, c'est normal, voilà un heureux homme.
Ça vous fait quoi de gagner à quelques centaines de mètres de chez vous, la plus belle course de votre carrière?
C'est fou, hein. J'ai les frissons un peu, c'est différent. Je kiffe. C'est une victoire hyper belle et comme tu dis, je suis proche chez moi, donc c'est cool. J'espérais pour le podium et les victoires. J'ai jamais cru de ça, mais voilà, je suis là.
Nous, cette dernière journée, justement, ça a été une journée folle, comme c'était attendu. T'as répondu aux attaques de Remco.
Oui, j'ai espéré une journée complètement fou et ouais, je pouvais répondre à toutes les attaques de Rampro comme vous avez dit et oui, j'étais fort, j'ai eu des bonnes jambes et ouais, je suis fier.
Raconte-nous ton rapport un petit peu avec la France, c'est un pays que t'aimes bien, tu maîtrises parfaitement la langue de ce qu'on peut en entendre.
Ouais, je suis arrivé en France avec l'équipe l'équipe formation de AG2R. Et là, j'ai appris français. Je suis allé dans une école française à Chambéry pendant 6 mois, 7 mois. Donc, ouais, j'ai appris vite.
Et c'est un pays qui te plaît
Oui, oui, oui. Ouais, c'est comme ma deuxième maison, France.
La deuxième maison de Jorgensen, la Côte d'Azur, donc même s'il évolue dans une équipe néerlandaise. Matteo Jorgensen, c'est un garçon dans quelle catégorie vous le rangeriez, mon cher Cyril? Est-ce que c'est de la race des futurs cracks ou de celle des lieutenants de très haut niveau? En gros, tu le verrais plutôt dans une case à la Vingegaard ou une case à la Kuss, même si ce sont deux cases de très haut niveau et l'un et l'une et l'autre. Hein.
Ben, déjà, quand vous gagnez Paris-Nice, ça vous place pratiquement. Vous avez les trois grands tours, vous avez le Dauphiné, après vous avez Paris-Nice. Donc c'est une des 5 plus grandes épreuves au monde. Quand vous la gagnez, ça vous donne quand même une certaine stature. Mais je pense qu'il faut revenir à l'équipe Movistar. On l'a assez démontée pendant plusieurs années, surtout sur les stratégies de course. Et moi, je pense qu'il aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Mais il était dans une équipe où ça ne tournait pas. Et quand il a commencé à prendre un tout petit peu plus d'entre-gens, eh bien, à ce moment-là, Visma l'a vu tout de suite. Et ils ont mis en route. Mais logiquement, il aurait dû déjà depuis 2 ans être pratiquement à ce niveau-là. Mais il a quand même perdu, il faut le dire, au moins 2 ans chez Movistar.
Jorgensen qui va faire un peu de tout cette saison puisqu'il va d'abord s'essayer aux Flandriennes avec des participations prévues au Tour des Flandres puis à Paris-Roubaix avant sans doute de faire partie de la garde rapprochée de Vingegaard sur la grande boucle. Il est tout terrain.
C'est sûr hein, qu'il sera sur la grande boucle hein. c'est quasiment certain. Enfin moi j'en discutais hier avec l'un de ses directeurs sportifs, ça ne fait guère de doute et ça me fait guère de doute que Jonas Vingegaard veut l'emporter avec lui dans son squad.
Ça fait peur quand même hein, d'avoir Jorgensen qui est équipier maintenant de Jonas Vingegaard. On s'était dit, on va en parler de Primoz Roglic qui part.
On était content, Roglic était parti.
C'est ça, et on prend Jorgensen comme ça.
Il avait plus que Kuss, bah maintenant il y a Jorgensen en plus.
Je voulais juste imaginer l'équipe là potentiellement de Visma Liseberg. Vingegaard leader, Sepp Kuss, Kreshvike, Matteo Jorgensen, tu me mets Christophe Laporte, ça me paraît assez sûr. Il n'y aura pas Wout van Aert cette année, mais il y aura quand même Dylan Van Baarle, Jan Tratnik, Tish Benoot.
Voilà. Allez. Le train de la Visma, il est déjà acté pour les montées. Ça ne va pas lâcher. Vingegaard sera parfaitement emmené. Mais c'est vrai que c'est incroyable, l'équipe que tu viens de nous dire, Arnaud, de la Visma.
Mais ça peut bouger, hein, mais dans tous les cas, ça sera quelque chose de solide.
Évidemment, il peut y avoir des...
Sachant que bon, là, dans tous les noms que je vous ai dit, bon, vous me direz peut-être, allez, Jan Tratnik, c'est qui lui? Bon, il vient juste de remporter Kern-Bruxelles-Kern.
fait des gros rouleurs.
Jorgensen.
Tratnik, c'est très, très fort.
Oui, oui, non, oui, mais bien sûr, non, mais voilà, c'est pas le plus connu. Je dis qu'une Bruxelles-Kern, pardon, c'est l'homme-loop qui l'a gagné, Jan Tratnik.
Jorgensen, qui est devenu hier le 3e américain à remporter la course au soleil. Vous avez les noms des deux autres, t'as pas le droit de jouer, toi?
Bah, je l'ai dit en plus dans le.
Oui, c'est vrai, on l'a entendu. Je vais laisser Cyril, tu le sais.
Cyril, j'en ai un que j'ai dirigé déjà.
C'est-à-dire
Bobby.
Bobby Rich.
Bobby Rich.
Et donc ensuite, deuxième, c'est d'après Floyd Landis,
voilà.
En 2006.
Armstrong n'a jamais gagné Paris-Nice.
Alors d'ailleurs, en parlant
Craig
de ça...
Craig Lemon non plus.
Sachez que Matteo Jorgensen... je suis pas sûr qu'il se soit beaucoup aligné sur Paris-Nice, Lance Armstrong. J'en suis pas certain, il faudrait vérifier, mais à mon avis, il a pas dû souvent le faire, voire peut-être jamais. Bref, toujours est-il qu'il y a une phrase qui a été un petit peu montée en épingle hier, à l'issue de la conférence de presse, autour de Matteo Jorgensen, qui a dit... Bon, et voilà, Matteo Jorgensen, comme Brandon McNulty, l'autre américain de la même génération qui termine 3e hier, qui a dit, bon, on a été inspiré par Lance Armstrong. C'était pas du tout le propos de dire on a été inspiré par par ce tricheur. C'était plutôt le propos de dire nous sommes des enfants des années 98-99. Quand on avait 7-8 ans, ben voilà, c'était Lance Armstrong qui gagnait le Tour de France et on ne savait pas encore que c'était un énorme tricheur. Et le propos, c'est de dire bon, ben voilà, c'est lui qui nous a inspiré, nous, petits Américains, pour aller faire du vélo et pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc voilà, il faut remettre les choses dans
c'est
leur contexte.
C'est pas pour rien qu'il y a un renouveau. Un enfin, peu dans le pensez. Là,
pensez.
Absolument. Avec Mike Nulty, tu l'as dit, je suis désolé, mais c'est quand même incroyable hein, ce qui se passe du côté des États-Unis.
Oui, Cyril.
Oui, mais je voudrais dire que traduire de cette façon-là les propos.
Ah, c'est pas traduit, il l'a dit en français. Il l'a dit en français. Hein.
Non, non, mais il a traduit dans l'esprit. Mm-hmm. Ceux qui le font sont des gens malhonnêtes.
Oui, peut-être.
Armstrong, deuxième de Paris-Nice en 1996 derrière.
Derrière Laurent Jalabert.
Et voilà, derrière Laurent Jalabert.
Mais oui, alors ça, c'était la première ville de Lance Armstrong sur le vélo. Mais je ne suis pas persuadé qu'après 99, il en ait fait beaucoup. Non. Bref.
Bref, je ne sais plus où j'en étais. Donc, Jorgensen, de troisième américain, qui s'impose donc dans ce Paris-Nice, qui a tout de même laissé son compagnon d'échappée de la dernière étape, Remco Evenepoel, remporter la victoire sur la promenade des Anglais. C'est déjà son quatrième succès de la saison, plus une deuxième place au général. Mais on attendait encore un peu mieux, on attend toujours plus de la part de Remco. C'est un peu sa destinée d'ailleurs d'être toujours attendu. Cyril, est-ce que tu fais partie du camp des déçus de la prestation de Remco sur Paris-Nice ?
Oui. Oui, parce qu'il n'est pas à son niveau. Mais ça fait plusieurs fois qu'on l'attend à un niveau supérieur, ne serait-ce que sur le Tour d'Espagne ou d'autres épreuves. Et lorsqu'on arrive dans la montagne, qu'on arrive dans des pourcentages un peu élevés, eh bien il plafonne comme il a plafonné sur ce Paris-Nice. Alors oui, il a l'air d'être content. C'est marrant parce que d'ailleurs moi j'ai lu un petit peu tout là sur ce qui a été écrit sur ce Paris-Nice et je me rends compte, et c'est peut-être là son problème, c'est qu'il est rentré dans le formatage des réponses aux interviews.
Je suis pas du tout d'accord avec toi, Cyril.
Non, mais t'as le droit de pas être d'accord. Non, mais attends. D'habitude, c'est le taulier et à la limite, il est en porte-pièce. Là, il commence à être vachement rond et il commence par dire, comme tout le monde maintenant aujourd'hui, « Ah oui, mais j'ai pris du plaisir. » Bon, quand j'entends ça, moi, ça me donne des boutons. Le vrai plaisir, c'est quand tu gagnes, c'est pas quand t'es battu.
Alors, justement, on va pouvoir s'en...
Moi, je ne suis pas du tout d'accord.
Forger une opinion chacun, puisque tu as rencontré Remco à l'issue de la course. Une longue interview, je crois.
Longue, modestement, quelques minutes. Mais bon, c'est vrai que c'est déjà un miracle de pouvoir avoir des interviews comme ça.
Par les temps qui courent, avoir un athlète de la...
Non, et puis surtout, bon, voilà, malgré ce qu'en dit Cyril, Remco, il aime parler. Il aime parler, il aime s'exprimer, il a besoin de s'exprimer. C'est un garçon qui a besoin d'exprimer.
Oui, mais il dit plus rien.
Ce n'est pas vrai, Cyril. Je suis désolé. Quand il perd 50 secondes sur Jorgensen vendredi à la colle sur loup et qu'il dit j'ai fait une erreur tactique, je suis désolé. Tu peux pas dire qu'il ne dit plus rien. Ça n'est pas vrai.
Eh ben, c'est pas vrai. Il a pas fait une erreur tactique. Il s'est fait larguer.
Alors, on écoute tout de suite l'interview de Remco Evenepoel, deuxième de Paris-Nice et vainqueur de la dernière étape sur la promenade des Anglais. Non, mais je rêve.
Bon, Remco, tu avais dit avant ce Paris-Nice une étape et une place sur le podium du général, mission accomplie.
Oui, bien sûr, surtout ce matin, on savait que Jorgensen allait être vraiment dur à battre et on le voyait aussi, c'était le seul qui pouvait suivre avec Vlasov, mais c'est le seul qui pouvait suivre jusqu'à la fin, donc il faut être content. Je pense que je me suis donné au maximum. Ouais, j'ai mis trois grosses attaques sur Côte des Pays, puis c'était le seul à suivre. Vlasov nous a rejoint au sommet et puis au sprint j'ai pu finir. Ouais.
T'as découvert les routes françaises cette semaine, tu disais aussi que c'était un des petits défis de la semaine entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de cette première épreuve en France ?
Ouais, aujourd'hui Mathéo il connaissait les descentes, moi je connaissais pas du tout, donc il m'a fait quand même souffrir dans les descentes parce que ouais il a quand même pris des risques quelques fois. Et comme je connaissais pas les virages, etc., c'était quand même un peu dur à suivre. Mais puis au deuxième tour, c'était déjà mieux. Mais ouais, je me suis amusé. Le public était là, tout s'est bien passé. Donc ça ne serait pas ma dernière course en France.
Si t'as un regret quand même sur la semaine, on imagine, c'est sur l'étape de
Marseille. Ouais.
Tu avais dit un petit peu erreur tactique finalement, c'est ça
Ouais, bien sûr. Je pense que j'aurais dû suivre à chaque moment parce que quand on voit le résultat, que je serai avec eux, je pense que je gagne le général. Mais bon, parler après la course, c'est toujours facile. Donc, il faut être content avec la situation qu'on était aujourd'hui et avec les résultats qu'on a maintenant. Donc, on va prendre les erreurs dans la tête avec nous pour les prochaines courses. Et il faut essayer de ne pas avoir les erreurs ou les mêmes erreurs. Donc, il faut être content et puis il faut continuer à bosser.
Bon, il reste 3 mois avant, mais tu as quand même hâte du Tour de France, j'imagine, à la lumière de la découverte que tu as eue des routes françaises cette semaine.
Il n'y a que 3 mois, ça va vite. Hein. Ouais. 4, voilà. Ah, tu m'as fait peur. Hein. Non, ouais, il y a encore beaucoup de travail. Je pense que je ne suis pas encore au top, mais c'est déjà bien pour commencer la saison avec des victoires en Algarve. Une victoire d'étape ici, deuxième dans le général, quelques maillots de plus. Donc, je pense que je dois être heureux avec le début de saison. Et il y a encore des grands objectifs qui arrivent avant une petite pause. Donc, il faut continuer comme ça, c'est bon.
Voilà l'interview de Remco par Arnaud. Moi, je la trouve sympa, son interview. Il a un peu de sourire. Tu sens derrière lui, effectivement, qu'il regrette de pas être allé dans cette échappée.
Mais il peut pas y aller. Il se prend 52 secondes. Arrêtez.
Il peut suivre au début, quand même.
Il peut pas y aller. Mais quand ça sort, il y va pas.
Mais bien sûr que si, qu'il peut y aller.
S'il a les jambes pour y aller, il y va sur les faux plats au sommet. Mais là, il peut pas y aller. Il a pas les jambes. Déjà, quand Roglic met en route au pied, il peut pas y aller. Et il est obligé de venir, et là, il se met dans le rouge. Et il est obligé de laisser partir. Attendez, c'est pas 15 secondes. C'est 52 secondes, il se prend.
Oui, 52 secondes, considérant une descente menée tambour battant devant par 3 mecs, et derrière, un groupe où Remco, il a la pancarte, et où personne collabore avec lui, Cyril.
Mais c'est lui, mais c'est à lui d'y aller tout seul.
C'est 1-3, donc voilà, quand il dit il fait une erreur technique.
Non. Il sait très bien que s'il laisse partir sur le faux plat, il est mort. Donc il peut pas y aller.
Donc il est malhonnête, il parle d'une erreur tactique alors qu'en fait il aurait dû nous dire qu'il avait pas les jambes.
J'ai pas dit qu'il était malhonnête, il croit ce qu'il dit.
En tout cas, je trouve que
je suis sceptique moi sur le fait qu'il ait pas eu les jambes.
Il sait très bien qu'il peut pas y aller.
Tu es du genre infidèle.
Il sait très bien qu'il peut pas y aller.
Tu as aimé, tu as adoré, tu as vénéré Remco.
Oui.
Aujourd'hui, c'est terminé.
Mais
cet amour immodéré est terminé.
Je soupçonne que ça soit même juste pour contredire.
J'aimais le Remco qui n'était pas, on va dire, normalisé, formaté. Son discours, il est formaté. Là. Il ne va pas dire non. J'ai fait peut-être une... Non, il ne peut pas
Cyril,
dire. Je me suis fait sortir
ça,
à la pédale. Il pouvait sortir Jorgensen à la pédale. Il ne pouvait pas.
Il n'a peut-être pas pu sortir Jorgensen, mais en même temps, Jorgensen, il a sorti tous les autres. Je ne comprends pas comment tu peux dire, et avec la connaissance du vélo que tu as, comment tu peux nous expliquer qu'il n'avait pas les jambes pour suivre vendredi dans la montée de la Col sur Loup.
52
jours. Je ne comprends pas, Cyril. Je ne comprends pas.
Non, t'es pas obligé de comprendre. Hein.
mais c'est un peu embêtant quand même.
Mais c'est pas embêtant. Attends, je crois que je parle de choses que je connais, que j'ai vécues. Soit en tant que coureur, soit en tant que manager. Bernard Hinault, il finit à 52 secondes. S'il me dit que c'est parce qu'il a pas les jeux, c'est parce qu'il a fait une erreur, non, t'as pas les jambes.
Ok.
Non, bon, c'est pas 15 secondes.
On a compris. On ne va pas vous réconcilier sur cette histoire-là. On ne vous mettra pas d'accord et c'est pas la première fois ni la dernière. Remco, qui on le sait, découvrira donc le Tour de France. Il lui a posé la question cette année. Il a l'air d'avoir hâte de découvrir les routes de la Grande Boucle. Que peut-il vraiment ambitionner sur la Grande Boucle pour vous, Johan? Des succès d'étape, ça c'est certain. Des raids à la Remco, sans doute. Un bon classement général ?
Alors, c'est quoi un bon classement général pour Remco ?
Je sais pas, un podium.
Podium ? Bah, ça, oui, il le peut. Pour l'instant, il a montré qu'il était plus fort que Roglic. Maintenant, pour moi, il est très loin de Pogacar. Il est très loin de Jonas Vingegaard, qui est pour moi le grandissime favori. C'est le grand gagnant de ce Paris-Nice. On en reparlera, mais il a gagné Tirreno, mais il a aussi gagné Paris-Nice un petit peu, Jonas Vingegaard. Oui, troisième du général. Est-ce que c'est assez pour Evenepoel ? Bah, on en attend tellement plus de lui, mais moi j'ai peur que Roglic, là, bon, il a été un petit peu décevant, mais que Roglic prenne un petit peu la forme va augmenter, qu'il est meilleur en haute montagne, Roglic. Voilà, Alors oui, des victoires d'étape, certainement, si ça arrive dans un petit comité. Mais je pense qu'il lâchera jamais la pédale Pogacar et Vingegaard sur les étapes importantes.
Il y a quand même une donnée aussi importante à prendre en compte sur Paris-Nice. Alors, vous me direz, c'était aussi le cas des autres coureurs. Mais non, pas le cas de Brandon Magnulti, en l'occurrence, qui était très bien entouré chez UAE. Il n'était pas quand même très, très bien entouré, Remco Evenepoel, aussi, là, ouais. sur Paris-Nice. Quand on considère, hein, par exemple, que Mikel Landa, que Mattia Cataneo, alors Ilan Van Wilder était là, mais que donc ces coureurs-là seront avec lui sur le Tour de France. Et peut-être d'ailleurs Julien Alaphilippe aussi sera sur
le tour. Il y a des infos d'ailleurs là-dessus.
Bon, j'ai pour tout vous dévoiler, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Lefebvre ce matin au téléphone, voilà, qui m'a dit parce que Remco Evenepoel a laissé entendre à l'issue de Paris-Nice que
il aimerait bien avoir
Julien Alaphilippe sur le tour, précisément parce que il a senti quand même que cette équipe elle était très faible à ses côtés sur Paris-Nice. Donc on a eu un petit coup de fil ce matin avec Patrick Lefebvre qui a dit oui, pourquoi pas, j'en sais rien, c'est loin, c'est dans 3 mois, on prendra la décision fin juin, il reste 4 places à prendre. Et là je lui dis, ça serait quoi la condition? Il me dit, qu'il fasse un bon tour d'Italie, voilà, qu'il soit très bon sur le tour d'Italie, et on reconsidérera peut-être la position. Donc en tout cas, il ouvre la porte, alors qu'il l'avait clairement fermée début janvier, Patrick Lefebvre, à une participation de Julien Alaphilippe au Tour de France. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il aura quand même une équipe peut-être un petit peu plus solide à ses côtés sur le tour, qu'on verra déjà aussi en partie sur le Dauphiné très certainement, pour l'aider.
Cyril, sur le Tour de France, Remco, qu'est-ce qu'il peut viser pour toi?
Où il rentre dans le rang et devient un coureur normal, où il reste au niveau des extraterrestres, ce qu'il ne démontre pas dans l'immédiat. Mais s'il doit rentrer dans le rang, je pense que ce sera... une très grande surprise compte tenu de tout ce qu'il a réalisé depuis le début de sa carrière, y compris en junior. Ce garçon ne peut pas accepter de rentrer dans le rang. Donc s'il est dominé sur tout le Tour de France, je crois qu'il faudra qu'il se remette quand même en cause.
Ouais. Et qu'il fasse...
Parce que là, moi, je suis... Et c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, je l'ai déjà dit l'an dernier, y compris sur le Tour d'Espagne, où je dis il commence à patiner un petit peu et je le sens pas aérien, il n'a plus cette capacité d'accélération qu'il pouvait avoir. Moi aujourd'hui je suis pas sûr qu'il puisse faire podium sur ce qu'on voit actuellement. Je suis pas certain qu'il puisse faire podium, voire même qu'il accepte d'être sur la troisième marche du podium. C'est pas le type de coureur, c'est pas sa personnalité, c'est pas son caractère. Et la façon dont il parle aujourd'hui, c'est pas lui qui parle.
Ok, intéressant en tout cas cette analyse de Cyril. On verra évidemment, on a hâte de voir les quatre.
De la même façon que je crois plus beaucoup en Roglic. Hein.
Alors justement, on va parler de Roglic parce que si Remco a moyennement réussi son Paris-Nice en terminant deuxième quand même et en remportant une étape, son bilan est largement supérieur à celui de Primoz Roglic qui était l'autre grand favori et qui n'a vraiment pas été dans le coup tout au long de la semaine. Il termine seulement dixième. C'était sa course de rentrée, ok, mais on attendait quand même beaucoup mieux de sa part. Il le dit d'ailleurs, je suis tellement loin au classement que je ne sais même pas qui est en tête. C'est vous dire quand même l'état dans lequel
il est capable de faire de l'humour quand même aussi.
Oui, il n'est pas réputé pour ça.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est quand même pas le plus...
Pas le plus fun.
On change en fonction des événements.
Quand on est moins bon, on devient plus drôle peut-être. Mais en tout cas, à la rue quand même. Hein.
4-0-4 sur l'étape de Nice. Par rapport à Remco Evenepoel,
la première fois qu'il craque sur une dernière étape.
Il avait déjà craqué sur des étapes de Paris-Nice dans le contexte où il y avait eu la chute notamment sur Paris-Nice en 2021 qu'il avait contraint, enfin pas à l'abandon mais en tout cas qu'il avait empêché de gagner au dernier moment, et c'est Schachmann qui s'était imposé, mais là on a le sentiment quand même, Johan, que clairement c'était une course de rentrée. Il faut s'adapter aussi à sa nouvelle équipe, peut-être le nouveau matériel, les nouveaux coéquipiers, une façon de faire différente,
c'est ce qu'il a dit. Mais Roglic nous a habitués de façon à faire sa rentrée là en mars, Tirreno, Paris-Nice, et à être très performant.
L'année dernière,
il a été plutôt inquiétant parce que c'est pas comme s'il était complètement passé à côté. On l'a vu essayer, et c'est ça qui m'inquiète encore plus, c'est qu'on l'a vu essayer d'attaquer, de se retourner et de lâcher complètement mentalement en fait, et de se dire j'arrive pas du tout, j'ai pas les jambes, je vois que tout le monde suit derrière, que ce soit Evenepoel, c'est normal, que ce soit Jorgensen, que ce soit d'autres, et
C'est ça qui m'inquiète pour Primoz Roglic. Alors, il a perdu énormément de poids, ça a peut-être aussi joué. Il faut qu'il se réadapte aussi peut-être à son corps, et ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez inquiétant ce qu'a fait Primoz Roglic. Maintenant, je me dis qu'il va forcément monter en état de forme, que ça sera beaucoup mieux en juillet. Mais c'est vrai que ce Paris-Nice, il est ultra décevant pour le Slovène.
Ouais. Pas facile de quitter la Jumbo, cette équipe incroyable qui fait gagner des gens qui n'avaient pas l'habitude de gagner, qui, quand on la quitte, eh bien, ne permet plus de gagner, Cyril, finalement.
Oui, mais ça a toujours été comme ça. Vous savez, l'équipe qui domine a par obligation une dynamique collective absolument extraordinaire. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de doute. De toute façon, si je coince, il y a quelqu'un qui prendra derrière. Et ça emmène tout le groupe. Et d'ailleurs, si vous parlez de Christophe Laporte a été pris dans ce mouvement. Ouais. Le problème, c'est que quand vous sortez de ce mouvement et que vous allez dans une autre équipe qui se cherche quand même depuis quelques temps, l'équipe Bora, elle était avec Peter Sagan. Peter Sagan s'en va avec une partie. On reprend d'autres. Et là, vous avez un mélange de coureurs qui n'ont pas l'habitude, mais qui sont surtout pas dans la même dynamique. Lui, il est arrivé. Attendez, il a l'habitude, il peut rester un mois et demi, deux mois sans courir, il arrive et le premier jour, il est au top. Il n'a pas fait différemment que les autres années. Il est donc arrivé sur Paris-Nice, on peut l'envisager, avec la même condition qu'il avait il y a deux ans ou trois ans, ou tout du moins la même préparation. Sauf que, il a un an de plus, et deux, il n'est plus dans la dynamique Visma. Et donc, ça fait la différence qu'on a pu voir sur Paris-Nice. Est-ce que l'équipe va re-rentrer dans une dynamique de victoire et pouvoir lutter avec la Visma et pas qu'avec la Visma? Il y a aussi UAE, je crois.
Ils ont en plus, pour aller dans ton sens, Cyril, ils n'ont pas eu une si mauvaise dynamique que ça sur Paris-Nice, parce que Vlasov a quand même gagné une étape, il termine troisième de la dernière étape. Il est quand même bien placé au classement général. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point Roglic a été complètement lâché et comment on a changé son fusil d'épaule chez Bora Hansgrohe au cours de la course.
Ils n'avaient pas le choix. Hein. D'ailleurs, Vlasov avait aussi un peu annoncé la couleur. Hein.
Oui.
En disant, attendez, je suis pas équipier, moi.
Ouais, je suis un leader, un leader bis.
Bah oui.
Il y a beaucoup de leaders bis hein, chez la Bora, parce qu'on va parler de Tirreno Adriatico, mais Hindley qui fait troisième, quand même, chez la Bora. Il y avait aussi Kamna qui fait huitième. Daniel Martinez qui a abandonné sur Tirreno, mais qui s'est montré au Portugal en battant Remco Evenepoel. Bon, il y aura quand même une grosse équipe autour de Primoz Roglic pour le Tour de France. Voilà, si tous ses coureurs sont alignés, rien n'est perdu pour lui. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que Vlasov finit devant lui. Et ça, on connaît Vlasov, qui s'en fiche un peu des leaders et qui veut faire sa course pour lui tout seul. Ouais. Voilà, ça va compter
et
aussi.
Il ne peut pas attendre son leader dans tous les cols. Evenepoel et Roglic qui ont donc perdu quelques plumes dans le combat à distance qu'ils livrent avec les deux autres grands favoris de la prochaine grande boucle, que sont Pogacar et Vingegaard. Ça peut compter, ça, psychologiquement, au départ du Tour, Cyril, mais bon, c'est dans 3 mois et demi, ou alors ça n'a aucune importance, les coups qui sont donnés maintenant seront oubliés en juin prochain à Florence.
Surtout les coups qui sont donnés, ou plus exactement ceux qui sont reçus, vont par obligation remettre en cause un certain nombre de détails, parce que bon là on est au niveau des détails, donc il va falloir se remettre en cause et corriger les petits points qui font que ça manque un peu d'huile quelque part, ça manque un peu de conviction. À 3 mois du Tour, non. Sauf si effectivement, d'un seul coup, on a le sentiment qu'on sera inférieur. Mais si on part du principe que les bases que l'on a, le collectif que l'on a, doit arriver à son meilleur niveau et donc être au niveau des autres, il n'y aura pas de problème. Mais, vous savez, le mois de mai est un mois très important.
C'est plus là que le mois de mars dans la préparation du Tour.
Ah oui, non, mais sur le plan psychologique, le mois de mai est très important. Parce que vous avez, tout le monde arrive au début de l'année. On a essayé de passer un bon hiver. On s'est bien entraîné. On a fait ce qu'il fallait. Et hop, ça ne répond pas. comme ça répond pas comme on veut, ça crée des tensions. Et y compris entre les coureurs et y compris avec l'ensemble des petites tensions. Et puis, d'un seul coup, toutes les ambitions sont en train de s'écrouler. Et comment on repart ? Et souvent, les équipes, elles pètent à ce moment-là.
On a hâte de voir comment ça va se préparer justement pour ce Tour de France. Le grand favori de la prochaine grande boucle était lui aussi en course cette semaine en Italie, sur Tirreno. Et comme d'habitude,
ah bon,
ça
n'a grand
pas
favori
fait un pli.
Ah bon ?
C'est pas ton grand favori, toi ?
Je sais pas.
D'accord, ok. Moi, c'est mon grand favori.
D'accord.
Et ça n'a pas fait un pli donc, pour le Danois, véritable machine à gagner, qui a remporté en solitaire les deux étapes qui arrivaient en altitude. Par la même occasion, le classement général de la course des deux mers. Implacable Vingegaard, qui ne montre jamais le moindre signe de faiblesse. On a même le sentiment, et lui le dit, qu'il est plus fort que les années précédentes. On rappelle qu'il y a deux ans, il avait été battu sur Tirreno par Pogacar. L'an dernier, il avait été battu par Pogacar et même par David Godu sur Paris-Nice. Bon, là, il n'y a pas Pogacar. On a bien compris que les deux s'évitaient soigneusement.
Jusqu'au Tour de France, ils s'évitent.
Hein. Oui, voilà. Mais ils vont pas s'affronter une seule fois.
C'est le combat de boxe, là. C'est Mike Tyson.
Ouais, c'est ça.
C'est incroyable.
C'est
on a l'impression d'avoir deux boxeurs qui vont se retrouver sur l'arène.
Ah, ça va être tellement excitant au départ d'aller voir tous les deux.
Bien évidemment. Bien évidemment.
Le scénario et le suspense est vraiment monté de la meilleure des manières. Vingegaard qui dit Cyril, je me sens en meilleure forme que l'an dernier et la saison précédente à la même époque. Ça fait peur.
Oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, les coureurs aujourd'hui. Savent pertinemment s'ils sont en meilleure condition ou pas. Vous avez les data qui sont là pour répondre de façon objective à la question. Où tu tenais 450 watts, maintenant tu tiens 470, donc tu peux dire que tu es en meilleure condition. Et inversement, si tu n'arrives pas à les tenir, là, ça pose plus de problèmes. Tout du moins, ça peut inquiéter. Donc si il dit « je suis plus fort que l'an dernier », ça veut dire que au niveau de ces data, y a des résultats qui sont, qui sont plutôt encourageants. Maintenant, vous savez, quand vous regardez tous les coureurs, à chaque fois qu'ils vous parlent de leur data, ils sont toujours en progression sur l'année d'avant. C'est très bien, mais ça veut dire que tout le monde travaille. Donc, les choses peuvent encore évoluer, mais il est d'une très grande sérénité. Et puis derrière, il y a une équipe qui ne peut que le rendre un peu plus serein.
Exactement, on en parlait tout à l'heure de cette équipe Visma. S'il n'a pas battu Poggi, il a battu aussi, et là aussi psychologiquement c'est important, il a battu le lieutenant désigné numéro 1 de Pogacar pour le prochain Tour de France, l'Espagnol Ayuso, dont on pouvait espérer qu'il résiste un peu mieux, peut-être en montagne au Danois, ça n'a pas été le cas, hein, Johan. Il termine deuxième du général, Ayuso, mais il est à 1,24 de Vingegaard. Et à chaque fois que celui-ci a attaqué, on a vu Ayuso tenter de s'accrocher, puis finalement lâcher petit à petit.
Ouais, alors qu'on s'attend à un Juan Ayuso en pleine forme parce qu'il gagne le contre-la-montre à 22 secondes devant Vingegaard, et là on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, et finalement en fait les attaques de Vingegaard ont été tellement tranchantes, elles ont été longues, et Ayuso a essayé de s'accrocher, c'était le dernier à essayer de prendre la roue, mais au bout de quoi 50 mètres il se retournait, regardait Jay Hindley et ils ont fini tous les deux ensemble. À chaque fois Vingegaard est beaucoup trop fort, et justement ça va mettre en parallèle avec les attaques de Remco Evenepoel qui n'étaient pas aussi tranchantes que ça, qui étaient nombreuses certes, violentes, mais pas assez longues pour faire craquer un gars comme Jorgensen. Et Vingegaard, il est tellement impressionnant. Je pense qu'il avait à cœur aussi de répondre à Tadej Pogacar, qui a fait la même sur l'Estrade. Vingegaard, on l'a vu en plus bien lancé par son équipe. Bref, c'est un monstre, il a tout écrasé, il a tout mangé. Et en plus, la Visma qui fait coup double en remportant les deux courses par étape. Donc, bref, le mental est tout en haut là pour la Visma.
La dynamique est bonne.
Oui, surtout que t'es pas à l'abri que derrière il t'écrase la campagne de classique flandrienne.
Ils vont tout gagner encore.
S'ils ne gagnent pas Milan-San Remo d'ici là.
Bon, bref, tout
va
bien.
Christophe, là, tu vas te faire piquer par les frelons.
Van Der Poel, Van Der Poel,
t'en as déjà des œdèmes partout, là.
Bon, on va rappeler Van Der Poel tout de suite. Hein,
On va en parler d'ailleurs de Van Der Poel dans un instant, parce qu'il arrive lui aussi. Un mot des Français, pas vraiment à leur avantage sur les courses de la semaine. Quand ça monte d'un cran, ça devient plus compliqué. On était là en début de saison à se glorifier des victoires des Français dans les petites courses. Mais là, évidemment, quand ça monte d'un cran, c'est plus compliqué. Le premier tricolore sur Paris-Nice, c'est Valentin Paré. Repin d'AG2R,
Aurélien.
Aurélien, pardon, pourquoi Valentin? Valentin, c'est son frère. Il se classe 14e et sur Tirreno, c'est Kevin Vauclin qui est notre invité il y a quelques semaines dans le Grand Plateau, qui prend la 10e place au général à 4 minutes 24 de Vingegaard. On est quand même loin du compte, même si c'est une très belle performance réalisée par Vauclin. Et celui qui est encore plus loin du compte, c'est David Gaudu, qui a vécu une sale fin de semaine sur Paris-Nice après sa chute malheureuse mercredi dernier dans une ascension. Il n'a pas chuté très fort, pourtant les séquelles de la gamelle l'ont contraint à l'abandon au départ de la dernière étape. Vraiment pas une bonne semaine pour le Breton. Est-ce que tu as pu le croiser, Arnaud ?
Alors, on a pu le croiser. Il a été non partant au matin de la dernière étape. Moi, je l'avais surtout croisé avant la course. On avait pu se poser une petite vingtaine de minutes et discuter avec lui. Moi, je lui ai posé ouvertement la question : est-ce que tu penses que le meilleur reste à venir ? Sous-entendu, est-ce que tu ne penses pas finalement que tu as fait le plus gros déjà de ta carrière ? Et la réponse était quand même très très évasive, en espérant évidemment pour lui que le meilleur reste à venir, mais la façon dont il avait répondu, je trouvais ça assez évasif. Et ça, c'est un secret pour personne, on va dire, dans la presse des suiveurs du cyclisme, que David Gaudu, on a quand même l'impression qu'il est sur une petite pente descendante. Et qu'il aura du mal désormais à nous refaire des coups comme il a été capable de le faire, terminer sur le podium de Liège-Bastogne-Liège, terminer sur le podium du Tour de Romandie, terminer quatrième du Tour de France,
gagner les deuxièmes de Paris-Nice.
Donc moi je suis un petit peu inquiet honnêtement pour David Gaudu. Après peut-être complètement à tort, je trouve pas qu'il respire une sérénité absolue lui-même dans l'image qu'il dégage. Voilà.
Ouais, au-delà du physique, ça a l'air d'être mental. On peut penser à sa chute, qui est complètement bête, c'est de sa faute. Il retire son maillot, sa veste, il tombe comme ça. Il avait fait un peu la même au Tour de France, où c'est une faute de concentration. Il se concentre pas sur un virage en épingle. Il essaie de se ravitailler. C'est un peu bizarre ce qui se passe pour David Gaudu. Peut-être, Cyril, tu vas peut-être nous éclairer, mais qui prend aussi le petit coup sur la carafe de la montée en puissance de Lenny Martinez, non, chez la Groupama.
Alors, tout s'additionne, hein. Rien ne se soustrait dans ce sport. Arnaud, je suis d'accord avec toi.
Ah,
merci Cyril.
On va les réconcilier.
Je suis d'accord avec toi et l'analyse que tu fais de l'interview de David, je crois qu'elle correspond vraiment à une réalité. Parce que depuis le début de l'année d'ailleurs, il n'est pas dedans au Grand Camino, il n'était pas dedans au Classique du Var, il n'est pas dedans, il a tenté 2-3 trucs. Mais rappelons, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'était des courses de 3e et 4e catégorie, qu'on appelle les 2, les 1-2 ou les 1-1. Donc ce sont des courses de 3e et 4e catégorie, vous aviez à peu près entre 40 et 50 coureurs français au départ. Et c'est Martinez qui est allé gagner avec beaucoup de chance, il faut le dire. Mais il fallait quand même être là. Et vous savez, quand il chute, alors déjà ça veut dire qu'il n'est pas très concentré parce qu'il sait qu'on va m'arriver dans la bosse. Donc s'il veut faire le match, faut pas garder la bâche. Donc il faut l'enlever, il l'enlève beaucoup trop tard, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand il repart, il ne se bat pas. Paché l'attend.
Il s'accroche à Paché pendant quoi, un ou deux kilomètres.
Deux respirations. Et il y va pas. Paché est obligé d'attendre. D'ailleurs, à la limite, est-ce qu'il fallait faire attendre Quentin? C'est pas sûr. Mais son coup de pédale, il n'y avait pas de tonicité, il n'y avait rien. Et ça, c'est pas un problème de blessure. Il se bat pas quand vous tombez comme ça. Vous repartez au moins, si vous avez une douleur, c'est pas dans les 20 premières secondes. Ou alors, elle va passer après. Mais à aucun moment, il s'est battu derrière. Il a subi, puis il a décroché. Alors effectivement, son abandon est lié à sa chute. Parce que derrière, il perd du temps. Il fait froid, les descentes sont longues, il pleut, il n'a plus de motivation, il n'a plus rien à faire dans cette course-là, et à la limite, il aurait peut-être mieux fait d'abandonner la veille. Il n'avait plus rien à faire sur Paris-Nice. Alors après, on va dire, ah oui, c'est les conséquences de la chute, peut-être. Moi, pour moi, il n'était surtout pas
la
dans
chute
le coup.
Au moral, hein. La chute dans le
du moral. Oui, oui. Ouais.
Bon, on verra. Quel est le programme des réjouissances pour
Tour du Pays Basque, et ensuite il va faire sa campagne normalement d'Ardennaise comme il avait fait l'an passé. Mais l'an passé, ça s'était mal passé parce qu'il avait eu des allergies et du coup il avait des NF sur toutes les Ardennaises. Mais bon, voilà, il a été capable, c'est en 2021, je crois, d'être sur le podium de Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est un vrai Ardennais, David Gaudu. Donc il faut espérer quand même que il puisse porter le cyclisme français, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de coureurs capables. Sur le papier, en tout cas, comme lui, de faire des classements.
Et puis
généraux.
La saison prochaine, il sera peut-être plus avec Lenny Martinez, parce qu'il se murmure que Bahreïn va mettre beaucoup, beaucoup de sous sur la table pour essayer de récupérer le jeune coureur français. Et Marc Madiot a l'air presque
résigné
à l'idée de voir partir Lenny Martinez. Messieurs, pour finir, un mot de la saison des monuments qui démarre prochain avec Milan-San Remo la Primavera. Aucun des noms qui ont été évoqués dans notre podcast du jour ne seront présents au départ de Milan, mais le plateau aura quand même de la gueule, Johanna, puisque Poggi sera là.
Eh ben oui, c'est ça.
Eh oui,
voilà. On l'a évoqué quand même, Pogacar.
Oui, mais il n'y a pas de course cette semaine.
Mais c'est vrai qu'il ne faisait pas de course cette semaine. Ouais, il se concentre sur les grandes courses d'un jour. Il a remporté les Strade Bianche. Il sera bien là sur Milan-San Remo. C'est un des deux monuments qui lui manque à son palmarès avec Paris-Roubaix. Donc il aura un cœur, évidemment, de gagner. Lui qui a terminé 5e et 4e. Van der Poel aussi sera là. La rentrée pour Mathieu Van der Poel, le tenant du titre, accompagné par Jasper Philipsen chez Alpecin. Lui aussi, un grand outsider. Si jamais ça arrive en gros comité, Jasper Philipsen. On aura Matej Mohoric, l'autre Slovène qui a gagné Milan-San Remo en 2022. Il était parti dans la descente du Poggio. Chez Ineos, Filippo Ganna, Pidcock. On a aussi chez les Lidl Trek, Stuyven, vainqueur en 2021. Mats Pedersen aussi, qui fait partie des favoris. On va surveiller Jonathan Milan, là, pareil, si ça arrive en sprint. Lui qui a gagné deux étapes sur Tirreno. Olaf Keuge, Arnaud, tu l'as suivi sur Paris-Nice.
Absolument.
Qui était énorme, avec deux victoires d'étape. Et chez les Français, évidemment, la plus belle chance, c'est Christophe Laporte qui sera là. Pourquoi pas Alaphilippe aussi, vainqueur en 2019. Et Arnaud Démare aussi sera là, lui qui a gagné Milan-San Remo en 2016.
Ouch. Ah, au fait, il était sur Paris-Nice.
Il était sur Paris-Nice. Après, il n'a pas eu de chance avec son équipe aussi. Pas mal de coureurs qui étaient blessés dans son train, plus ceux qui remplaçaient ces coureurs blessés qui eux-mêmes ont subi des mésaventures. Mais c'est pareil, Arnaud Démare, bon. Il est pour l'instant à 4.
Est-ce que le mieux n'est pas derrière lui aussi un peu?
Tu je pense quand même qu'ayant eu 95 victoires, ça sera compliqué d'en avoir 96 supplémentaires désormais d'ici la fin de sa carrière. Mais il faut quand même lui souhaiter de pouvoir aller au 100 et il en a encore remporté des belles. Juste pour rebondir sur ce que disait Johan quand même sur Milan-San Remo, enfin peut-être que tu allais nous demander quel était notre favori. Moi, il y a un duel dont je suis absolument fan dans les monuments, parce qu'on parle Pogacar Vingegaard sur les grands tours, mais il faut parler de Pogacar Van der Poel sur les monuments qui se disputent, qui se tirent la bourre sur qui aura le plus grand nombre de monuments. Pour l'instant, c'est 5-4 en faveur de Pogacar. Donc voilà.
Poggi qui n'a encore jamais gagné Milan-San Remo.
Oui, et Van der Poel qui lui avait donné la leçon l'an passé.
Dans la montée du Poggio avec les 4, il y avait 4 géants qui étaient là. Il y avait Poggi, il y avait Van der Poel, il y avait Van Aert et Ganna, je crois. C'était le 4e larron. C'était énorme cette bagarre qu'ils se sont livrés. Cyril, Van der Poel reprend sa saison sur route sur Milan-San Remo, même s'il a été impérial sur les cyclocross. C'est pas un peu risqué, ça, de ne reprendre que sur cette course dont c'est évidemment un objectif prioritaire? Il n'a pas frotté, il a perdu peut-être les habitudes de rouler en peloton. Non, c'est pas grave pour toi?
Non, il a fait la saison de cross, ou une grande partie de la saison de cross. Donc, en termes d'entraînement, au niveau des intensités, tout a été fait dans le labour. Aujourd'hui, on sait qu'on peut s'entraîner, arriver, gagner la première course, et de quelle manière regarder Pogacar sur les Strade Bianche, et de quelle manière, en partant à 80 bornes de l'arrivée, ça sera plus compliqué sur Milan-San Remo. Mais Milan-San Remo, je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, Van der Poel avait rendu public ses relevés, ses data. Voilà. Et en fait, pendant l'épreuve est longue, mais elle ne sollicite pas énormément sur le plan physique. Et en fait, ok, on attaque les 300 km, mais sans avoir dépensé beaucoup d'énergie en dehors éventuellement des équipiers qu'on a mis à la barre. Et on arrive pour finir par une course de côte. Et là, sur une course de côte, il craint pas grand-chose. Mmh.
Il est donc ton favori pour ce Milan San Remo ou Poggi, c'est... Tu mettrais une pièce sur lequel
L'un ou l'autre. Après, le problème, c'est que il faut pas tomber dans la descente. Et s'ils arrivent tous les deux, lequel des deux va le plus vite ?
Oh, c'est pas si évident que ça à déterminer. Bon, si Van der Poel quand même a priori. Bon, enfin, Pogacar, il est rapide au sprint.
Oui, mais
Pogacar, il est. Non, mais attends. Souviens-toi au sprint des JO, il avait failli battre Van Aert, par exemple, pour la médaille d'argent aux JO à Tokyo. Pogacar. Quand je dis, il avait failli, il avait vraiment failli. Mais... C'est jusqu'à 30 cm de la ligne.
Mais il a failli seulement.
Hâte, en tout cas, de voir cette bagarre et de voir tous ces grands coureurs se livrer bagarre. Donc, dans le premier monument de la saison, Milan-San Remo, qui sera suivi deux semaines plus tard du Tour des Flandres, puis de Paris-Roubaix. La saison des grandes courses bat désormais son plein. Merci, messieurs. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On est en plein cœur de cette magnifique saison de cyclisme. Bonne semaine. À lundi prochain pour Grand Plateau. Ciao.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.